Tata Boom!
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tata Poum, épisode 46. Tata Poum, même générique, même projet, même musique bruyante, mais nouveau studio, nouvelle antenne, puisque nous atterrissons sur le 93.1 FM à Paris, sur l'antenne de Cause Commune. Donc bonjour Cause Commune, bonjour les auditeurs, et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est temps de faire les présentations, de passer en revue les troupes de Tata Poum. Commençons par le chroniqueur en chef, Guillaume. C'est ses premières chroniques musicales, il y a peut-être 15 ans à la radio, qui m'ont donné l'idée de cette émission. Pour tout vous dire, Guillaume, c'est plus de 30 ans d'amour du rock, le plus pointu, le plus complexe, explorateur des niches avec un goût prononcé pour tout ce qui touche les limites de l'écoutable, du supportable et du bon goût. Ses chroniques sont souvent bien meilleures que les albums qu'il nous présente, mais c'est aussi un internationaliste convaincu, refusant tout repli nationaliste. Il se refuse à toute forme de musique bruyante qui viendrait de France. Son mépris pour la scène rock française est devenu sa légende. Ensuite viennent Marion et Bibi. Eux, c'est l'inverse. Supporteur local punk scène, répète Bibi, adepte d'un punk en circuit court. Il sillonne depuis près de 4 décennies les salles de concert parisiens et ont vu naître et mourir la plupart des groupes à guitare de la capitale. Dans ce marigot, où les critiques sont faciles, où un groupe peut être assassiné pour faire un bon mot, dans ce champ de bataille peu clément, voici notre infirmière, notre juge de paix, dirais-je. Voici Héloïse, elle pardonne tout au groupe pour peu qu'ils aient des guitares. Sa soif de son saturé génère une clémence immense pour des groupes soumis à sa sagacité. Héloïse, c'est notre mauvaise conscience. C'est elle qui nous rappelle qu'une société qui se construit sur la haine et le mépris est une société qui va vers sa tombe. Ensuite vient Arnaud. Arnaud et ses tropismes électro, ses indulgences coupables pour les guitares héros et les guitares prétentieuses en tout genre. Arnaud qui a lié les coupes de cheveux de ses enfants à ses tropismes musicaux et qui leur fait écouter l'ensemble des albums que nous chroniquons, ce qui peut parfois être proche de la maltraitance. Et puis je me tourne maintenant à ma gauche, il y a Mathieu, l'autre tonton ronchonchon de cette émission, jamais content qu'il n'aime rien et qui a pas envie de danser. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette façade austère, nous avons un mineur de fond qui explore tous les filons des diverses galeries de la musique bruyante et toutes celles qui ont la gentillesse de se produire à Paris ou dans sa banlieue. Mathieu connaît et documente presque tout ce qui se passe sur scène à Paris. Il en fait d'ailleurs un blog passionnant. Il suffit de chercher l'Ayatollah du Rock sur un moteur de recherche, puisque 3, 4, 5 fois parfois par semaine, il est dans les salles de concert pour ne rien manquer de ce que les vieux, mais surtout les jeunes groupes, peuvent nous proposer et nous dire, nous crier, nous chanter. Enfin, 8 fois enfin, voici Cédric et ses brillantes saillies qui tenteront de nous faire oublier qu'il ne sait pas toujours où il habite. Entre ses exigences formelle pour un post-punk conscient socialement et musicalement de la mission historique qu'il lui a assignée vis-à-vis du mouvement ouvrier. Et d'un autre côté, son indulgence coupable pour le pas très bon, mais quand même on écoutait ça quand on était jeune, alors c'est cool. Voilà donc l'équipe de ce soir et des dimanches à venir sur cette antenne qui mettra en débat des choix totalement subjectifs de musique bruyante, mais très vivante. Et redisons-le une fois encore, nos passions, nos détestations, notre mauvaise foi sont un cri d'amour au punk, au rock, au garage et à toutes ces musiques. Commençons par du lourd, voire du très lourd dans nos cœurs, puisque ses frustrations qui sort un nouvel album, et Héloïse nous a sélectionné un premier morceau, ça s'appelle Pale Light. Voilà, c'était donc le premier extrait de Frustration. Frustration qui sort un album qui s'appelle Our Decisions. Et c'est Héloïse qui nous présente cet album.
Alors, Frustration n'est pas seulement le nom du brillant magazine de la guerre des classes. C'est également celui d'un quintet parisien formé en 2002 par Fabrice Guilbert, ancien des Tekel, Emmanuel Blévarc, Fred Campo, Nicus Dutel et Marc Adolphe, historiquement liés à la montée en puissance du label Born Bad Record, dont ils furent la toute première sortie et dont le batteur est accessoirement le disquaire. Et c'est avant tout l'histoire de cinq types qui, issus à l'origine du milieu garage, ont décidé de faire autre chose que du rock'n'roll bruyant et sale. Un truc à la croisée du punk et de la cold wave, une sorte de mix entre Warsaw, Wire et The Fall. Et cette autre chose, peut-être suffisamment éloignée du rock français pour plaire à Guillaume, mais je ne suis pas sûre, donne donc Frustration qui, après un EP éponyme en 2004, un premier album Full of Sorrow en 2006, un deuxième Relax en 2008, puis une flopée d'autres, revient avec un sixième opus, Our Decision, paru en mars dernier, toujours chez Born Bad Record, un brûlot post-punk qui sonne énervé et brut. La couleur, sombre évidemment, est d'ailleurs annoncée dès la pochette, illustrée par le peintre Baldo. Au recto, une tractopelle customisée à la Mad Max déplace des ordures dans une montagne de déchets qui constitue le seul horizon d'un ouvrier représenté de dos. Au verso, des coléoptères et autres insectes sont épinglés sur ce qui ressemble à la planche d'une collection entomologiste. En bref, une sorte d'anticipation de l'apocalypse qui nous attend, de ce mur dans lequel on fonce par la faute à nos décisions. Côté son, le disque sonne moins radicalement cold wave que les précédents, mais tout autant post-punk, voire indus sur le morceau Riptide. Il se démarque par la participation d'Anne du groupe Hammershøi sur le morceau Vorbei, qui chante en allemand, ainsi que par la présence de deux morceaux en français, Omerta et Consumé, au milieu de compositions en langue anglaise. Il en résulte un album léché que ces cinq types ont, comme à leur habitude, pris le temps de faire et de bien faire. Une musique nerveuse qui pose un constat désabusé sur notre époque. J'ai pour ma part trouvé ça grandiose.
Et j'imagine que Guillaume aussi.
Ah non, 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 non. Du tout, car s'il en est un, ce sont eux, Frustration, soit la fine fleur, que dis-je, à entendre tous mes camarades autour de cette table, l'excellence rock française. Notre gloire à nous, c'est simple, les Irlandais ont Fontaine D.C., les Australiens ont Anil and the Sniffers, et nous, c'est Frustration. La crème de la crème de ce que notre rock hexagonal a à offrir au monde. L'admiration béate qui se lit sur les visages de mes camarades dès qu'on prononce le nom de Frustration mesure l'écart culturel qui me sert pas et m'impose de me rendre le dernier ici à posséder le sens de la mesure, d'expliquer ce que j'en pense en essayant de me montrer moins sévère que les comptes rendus assassins que l'on trouve sur les sites anglophones. Car s'il est connu que la critique rock française partage la même complaisance que les services politiques de France Télévisions à l'égard de notre gouvernement dès qu'il s'agit de parler de compatriotes, de mon point de vue, Our Decision est un album moyen, témoignant en fait du peu de talent de cette formation, et cela en découle de leur approche faiblarde de la chose rock. Je veux dire par là que la facture des morceaux n'est vraiment pas terrible, dans le sens où, reposant sur des schémas de composition qui ne transcendent quasi jamais des arrangements trop rudimentaires pour impressionner, l'album souffre à la fois de son manque d'amplitude et de suffisance. Exemplaire à ce titre est Pawn of the Game. Et je crois tenir le principal responsable, mais il y en a d'autres, le guitariste. Il n'apporte strictement rien d'intéressant sur le plan musical, sa palette étant hyper limitée, son jeu n'offre aucune variété, pire, par ses limites techniques, il plombe toute la capacité du groupe à dépasser le cadre qui leur impose, les autres musiciens devant tenir compte de ses manques. Cela en est au point que la guitare n'est jamais mise en avant, un comble pour un groupe de post-punk. Cela a pour résultat que le synthé aidé de la basse sur compense en permanence. Or, n'est pas Dépêche Mode qui veut faire de la musique pour les masses, réclame un registre d'une étendue que ce dont sont capables nos Parisiens. Cependant, certains titres sont meilleurs que d'autres, et sauf l'appréciation générale que je peux en avoir, Riptide est solidement construit dans un cadre très dépêche-modien, en effet. Forby échappe au format rock classique qui donne une sensibilité différente, qui fait plaisir, car joliment interprété. Mais trop de morceaux souffrent de schémas à la fois trop simples, Catching Your Eyes et Ou Mal Emmené, Pale Lights. Cet album moyen, je le répète, n'a sûrement rien d'infamant, mais si c'est ce que notre scène rock a de mieux à offrir, n'espérez pas que je change d'avis sur elle.
Bon, j'ai bien peur que notre scène rock n'ait pas mieux à offrir, Guillaume, mais depuis plusieurs années, c'est vrai que c'est un groupe important, c'est un peu un groupe structurant dans le petit monde du punk, du post-punk que l'on fréquente un peu tous autour de cette table. On croise assez fréquemment les membres de Frustration dans les concerts, le batteur et le disquaire, Héloïse l'a dit, le disquaire de Born Bad, qui est sûrement le disquaire préféré de la plupart des gens autour de cette table. Voilà, et c'est c'est marrant parce que c'est finalement c'est un assez vieux groupe avec des vieux musiciens puisqu'il naît en 2002. Mais je trouve pas que ça sente tant que ça le vieux. Peut-être que parce que la plupart d'entre eux, ils font pas que ça. Ils sont travailleurs par ailleurs et tout. Et ils travaillent et ils font du rock. Moi, je trouve ça musicalement solide. C'est toujours sur la brèche. Alors, il y a un son assez unique qui fait qu'on les reconnaît d'un album sur l'eau, mais je trouve que ça continue d'avancer. T'as pas une espèce de cadre figé qui fait qu'ils font toujours le même album. Voilà, moi je trouve que ce sixième album brut et d'une certaine manière assez dépouillé est assez réussi. Je suis carrément convaincu en vrai. Par contre, il y avait en réécoutant ça, je me dis mais si c'est notre groupe qui fait un peu référence, qui fait un peu l'unanimité, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et ben, je crois bien qu'ils n'ont rien à dire si ce n'est de nous proposer une vision assez sombre du monde. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que nos héros n'ont plus de message, ne portent plus ni espoir ni revendication, et que c'est peut-être le seul message qu'ils ont ici, c'est la pochette de Baldo. On vit sur un tas d'ordures et notre seul horizon, ce sont ces sacs poubelles. Cédric.
Ben un peu comme toi, hein, le dernier frustration, c'est toujours un petit moment d'excitation quand on entend qu'ils vont sortir un album. C'est toujours un petit moment attendu, donc c'est un groupe qui est à la fois très inscrit dans l'histoire du rock, hein, qui connaît hyper bien ses classiques et puis toutes les raretés de cette histoire, et qui est aussi assez singulier dans son post-punk. Le tout qui est associé à des prestations de scène très explosives et toujours excellentes, sous un bon moment de les voir sur scène. Ils entraînent bien le public. Et j'ai pas été déçu par cet album. Le précédent, j'avais un peu moins apprécié, même si j'aimais toujours bien, hein, mais je trouve que c'était un peu décalé le dernier. Donc ici, je trouve qu'on retrouve le mariage. Bon, je rejoins en partie Guillaume sur ce point-là, mais moi, dans un sens positif, la mise en avant de la batterie sourde et la basse qui est très au-devant du groupe, la voix grave presque scandée et le synthé très présent qui en fait sa singularité. C'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup. Je trouve que tout ça fonctionne très bien. C'est clair que la guitare est un peu moins mise au devant, mais moi, ça me dérange pas du tout, au contraire.
Quand le guitariste n'est pas là, ils annulent pas le concert.
Et donc on voit sur cet album donc qui commence par des petits cris d'oiseaux, mais qui sont très vite recouverts par un son brut sur les premiers titres, qui nous ramènent plutôt du côté de l'énergie des premiers albums de frustration finalement, et qui vont être suivis par des titres plus doux, plus posés, plus cold, comme Pawns of the Game, on the Game, que t'as pas trouvé, moi que j'ai beaucoup aimé, un peu plus Sisters of Mercy si j'ose dire. Et puis moi j'ai trouvé vraiment très très étonnant et très bon le titre minimaliste Vorbei. Donc un album qui souffle le chaud et surtout le froid au sens positif du terme. Seule fausse note à mes yeux sur cet album, le titre en français Omerta, que j'ai un peu moins aimé. Voilà. Mais bon, j'ai toujours grand plaisir à réécouter ce groupe et vraiment je me réjouis d'avoir ce groupe comme fer de lance du rock parisien.
Mathieu, même enthousiasme?
Moi c'est difficile parce que c'est un groupe que j'ai déjà vu 45 fois sur scène, donc je peux pas dire que je sois totalement neutre. Donc outre le fait que de toute façon j'aime bien, je vais essayer d'être critique et d'aller un poil dans le sens de Guillaume. Alors tu l'as aussi dit, Cédric, moi je trouve que les titres en français ils ont encore du mal à être aussi incisifs. Je pense que Fabrice le chanteur il travaille pour ça, mais c'est plus compliqué d'écrire en français qu'en anglais, et effectivement c'est pas encore les tubes qu'on peut attendre. Il y a aussi quelque chose, il y a deux titres qui dépassent les 5 minutes, et pour moi c'est les deux titres qui sont à la fois trop longs et musicalement j'ai l'impression que le groupe fait peut-être un petit peu de remplissage sur ces deux titres. Voilà, il manque un peu d'énergie. Je vais pas employer le terme progressif, mais j'y pense un peu et ça me fait mal. Il n'empêche que ça reste du frustration. Alors Guillaume, je veux bien que au niveau australien on soit d'accord avec Emil and the Sniffers, mais parler de Fontaine's D.C., ça n'a vraiment aucun sens. C'est Fontaine's D.C., c'est pas bon, quoi, c'est tout. Voilà, cet album, ça reste du frustration.
Allez, tonton,
ça reste quand même des lieux au-dessus de la majorité des groupes français. C'est vrai qu'on entend sur cet album plus les synthés de Junior que d'habitude. Si on entend moins la guitare, je pense qu'on peut pas reprocher au guitariste, puisque en fait, c'est lui qui a fait le mix. Donc, il aurait pu choisir de se mettre plus en avant. Donc, c'est vraiment un choix global du groupe. Et si l'album est brut, ben oui, c'est une volonté de revenir au début. Donc moi je pense que ça reste un bon album, un peu inégal, ça c'est sûr. Et si Pierre tu attendais de l'espoir d'un groupe, moi je ne comprends pas pourquoi. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'espoir dans le monde en 2024? Mais ça c'est ton côté positif. Bon, Moi, j'y crois pas.
Arnaud, frustration.
Moi, j'ai un souci parce que vous avez tout dit, et notamment Cédric, il va falloir qu'on se cale pour nos chroniques parce que t'as dit quasiment mot pour mot ce que j'ai écrit. Bon, je vais faire très rapide. Qu'est-ce que vous avez pas dit que auquel j'avais pensé? On a chroniqué il y a pas longtemps un autre groupe, Proto Martyr, qui écrit des textes sur la décrépitude du monde. Et la différence, moi, que je trouve avec un groupe comme Proto Martyr, c'est que moi j'en sors de l'écoute complètement déprimé, alors qu'à l'écoute de frustration, moi j'en sors joyeux. Enfin, leur musique est vraiment jouissive, il y a une rage contagieuse que j'adore. Moi, j'aime beaucoup frustration. Comme Cédric, j'avais trouvé l'album précédent moins bon, notamment il y avait trop de featuring. Là, le seul featuring qu'il y a est absolument superbe. Et ça montre vraiment qu'ils savent écrire en fait des textes, parce que Vorbey tient sur la mélodie et l'écriture et pas trop sur la musicalité. Moi, j'ai adoré aussi les mêmes morceaux que toi, Cédric, Pawn of the Game. Il y a un morceau qui est génial, qui est clôture, qui à mon avis va être un pogo absolu en live, c'est Secular Prayer, que vous avez pas cité. Et totalement d'accord, les morceaux qui sont en deçà, c'est les morceaux en français. Ce qui n'était pas le cas dans l'album précédent, où il y avait un morceau en français qui était absolument génial. Là, c'est pas trop le cas. Ils savent vraiment mieux écrire en anglais, il n'y a pas à dire. Morceau dont t'as parlé, Guillaume. Il est génial, Riptide. Et en effet, il fait carrément penser à Depeche Mode. Et je suis absolument d'accord avec Guillaume et Mathieu. C'est un groupe de post-punk. Donc, en fait, t'es un post-punk refoulé, Guillaume. Faut absolument t'assumer parce que on est d'accord et on a la même écoute. La basse et la batterie, la basse rythmique est en avant. Et la guitare, on l'entend pas trop. Mais en fait, si, parce que réécouter le morceau qu'on vient d'écouter à la Pile Lights et celui qu'on va écouter après, c'est la ligne mélodique. Donc, on l'entend pas tant que ça. Mais en fait, celle qui porte la mélodie, la guitare. Voilà ce que j'ai pu dire. On reparlera de vos accents là respectifs, parce que Pierre, va falloir que tu te soignes. Our Decision, et puis fais gaffe, hein, y en a plusieurs qui ont dit la même chose. On reparlera de ça tout à l'heure, notamment avec la dernière chronique, mais bon, je un petit teaser.
Voilà, on écoute donc un deuxième extrait de Frustration. Héloïse nous a sélectionné State of Alert. Voilà, ça c'était Frustration avec State of Alert, un extrait de leur dernier album. Et on part tout de suite pour l'Allemagne avec Sexbeat, mais quel nom de groupe ça. Sexbeat qui nous joue Call Me.
You may call me
Voilà, ça c'était un premier extrait de Sex Beat et c'est Mathieu qui nous en parle.
Oui, alors Sex Beat, c'est un groupe berlinois qui existe depuis à peu près 2020. Je dois avouer que c'est assez compliqué de trouver des infos sur le groupe. C'est son premier album, il avait sorti une démo en 2020. Les membres du groupe ont joué dans pas mal d'autres groupes totalement inconnus, donc c'est pas la peine que je vous les cite, ça sert à rien. Cet album, il paraît chez The Storming Man Records. C'est un album qui est très ramassé, hein. Il y a 10 titres, 26 minutes, donc les morceaux sont assez rapides, comme ce premier Call Me qu'on vient d'entendre. Et on retrouve sur cet album les sonorités actuelles du punk, post-punk européen, avec une énergie qui est quand même assez impressionnante. Donc ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que le groupe peut citer sur cet album autant Christina Aguilera que Oscar Du ou Dennis Rodman. Donc il a des textes qui partent un petit peu dans toutes les références. Et pour faire rapide, si vous avez aimé le Minneapolis Uranium Club, je pense que vous adorerez ce Call Me de Sex Beat. C'est vraiment un album éminemment recommandable.
Je te trouve très généreux. Héloïse.
Je suis tout à fait de l'avis de Mathieu. C'est un album qui ne réinvente clairement pas l'eau chaude, mais qui le fait à merveille, et divinement bien même. Tel le dernier adieu morveux à une génération à la dérive, pour ne pas les citer. Au menu donc, une batterie brutale, des lignes de basse nerveuses et des guitares bruyantes, au soutien d'une musique épurée, brute et énergique. Cela sonne punk, hardcore, post-hardcore. Cela cause misère personnelle, crise politique et dysfonctionnement de la société moderne. C'est d'un cynisme brutal et cela coche toutes les cases. En bref, c'est selon moi très prometteur pour un premier disque.
Louise nous a dit, attention, je vais être un peu critique. des Allemands qui font du punk, c'est la première fois qu'on en a dans notre émission, dans mon souvenir, des Allemands. La preuve que l'électro n'a pas tout écrasé chez les teutons. La dernière fois que je me suis procuré un album de rock allemand, c'était Nena avec 99 Sich Luftballon, dont mon correspondant allemand était fan. Voilà. C'est pas mal, c'est du vrai punk, hein, ça coche toutes les cases, la brutalité, l'urgence, la maîtrise technique est assez impeccable, toutes les guitares sont dehors et très agitées. Il y a un son où on a l'impression que les médiateurs ont été remplacés par des hachoirs. Voilà, c'est assez court, brutal et tout. C'est vrai que ça impressionne un peu, mais malgré tout, je trouve que ça provoque pas tant d'émotions que ça. Peut-être parce que le chanteur est un peu toujours dans le même registre, hein, toujours le même truc dans la voix, une espèce de colère un peu saturée qui se répète. Et puis, à un moment donné, à l'écoute, je me suis demandé si c'était ce côté un peu formaté, était un peu le défaut d'un groupe trop jeune ou trop vieux. Bon, j'ai regardé les photos, je dirais qu'ils sont un peu trop jeunes, donc peut-être que c'est vraiment très prometteur finalement. Guillaume.
Ouais, moi c'est plutôt tout le reproche que je peux faire à la scène post-punk berlinoise actuelle dont est issu Sex Beat, au même titre que des groupes comme Die Verlierer ou OPNV, qui sont d'une qualité d'interprétation à faire baver d'envie n'importe quel de nos groupes hexagonaux. Un savoir-faire indéniable en matière de composition, mais un manque cruel de personnalité dans le style. La rigueur et la froideur allemande appliquées au rock'n'roll en me montrant caricatural. Car si je n'ai incontestablement pas de gros reproches à faire à ce Call Me, je n'ai pas de la même façon pas de grosses qualités à lui attribuer. Il est à la fois hyper bien réalisé, solide dans tous ses fondamentaux, suffisamment varié et bien construit, mais dans le même temps, je le trouve plat, sans grande saveur, ne m'ébahissant en rien, ne parvenant à m'enthousiasmer de rien, et de la même façon, n'étant gêné de rien de ce qu'il propose. Aussi impeccable et immaculé que les Santiago de Pierre, Sex Beat établit une sorte d'hypersante de la production actuelle, aussi agréable et confortable à écouter, qu'il en sera aussi vite oublié tant il n'a jamais su capter mon attention.
Arnaud, tu es aussi sévère.
Non, pas du tout. Et c'est le troisième groupe allemand. Il y avait Pigeon et Liek qu'on avait chroniqué avant. Et je trouve que tu prononces pas mal l'allemand. Pierre, faudrait peut-être bosser les groupes allemands. Non, moi, c'est typiquement le groupe que j'aime, si j'étais auditeur de Tata Poum, que j'aimerais écouter et découvrir, parce que je connaissais pas. J'ai trouvé ça absolument génial, moi. C'est lisse, c'est plat, Guillaume, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on trouve des groupes luxembourgeois, de Liechtenstein, pour que ça te aiguise l'oreille? Je sais pas. Peut-être. Non, en tout cas, moi j'ai trouvé ça génial. Ils chantent en anglais et ils chantent vachement bien en anglais. Ça pose quand même question sur notre apprentissage de la langue, hein, parce qu'on l'a écouté sur Frustration et alors à la fin, vous allez vraiment avoir mal aux oreilles sur le dernier groupe, j'en reparlais tout à l'heure. Très rapide, moi il y a trois morceaux que j'adore, Tilly, Secrets et Dennis Rodman. Et c'est vraiment une musique pour dire allez vous faire foutre et les textes sont complètement cons. Et c'est génial, voilà. Belle découverte.
Cédric.
Bah pour pas changer, je suis complètement d'accord avec Arnaud.
C'est tic-tac là, qu'on a autour du micro. Ça.
Avec ce Call Me donc, qui nous amène quand même assez loin de Blondie, mais avec Sex Beat, on est peut-être plus proche du Gun Club et leur titre du même nom. Peut-être de là d'ailleurs le nom du groupe. Hein. Juste histoire de te rappeler qu'il y a quand même une histoire du rock.
Il y a l'arrogance.
Non, je suis complètement d'accord avec Arnaud. Je trouve cet album très punk, explosif, hyper réjouissant, hurlant, qui laisse peu de répit. La voix est teigneuse et elle répond assez bien à l'urgence des autres membres du groupe. C'est certes de jeunes berlinois assez propres sur eux finalement, quand on les voit dans leur clip, mais c'est jamais poseur. Le disque est joué dans les excès avec de temps en temps des petites teintes de post-punk, mais tout ça avant que le rythme ne reparte de plus belle. Moi, je trouve que c'est difficile de rester de marbre quand on les écoute. Il n'y a pas de temps faible dans les titres, mais c'est difficile même, contrairement à Arnaud, d'en sortir quelques-uns. Je trouve que le schéma fonctionne assez bien sur l'ensemble de l'album et qu'il n'y a pas tellement besoin d'être en concert pour commencer à hocher de la tête et de tout le reste. Donc, album réjouissant par cet embossage. Juste un petit truc. Mathieu, tu disais qu'ils avaient fait un grand nombre de groupes, notamment un groupe du chanteur repris d'un film de série Z, Surf Nazi Must Die. Et on peut se dire qu'on peut se donner ça comme programme par les temps qui courent.
Allez, eh ben on écoute justement un morceau qu'évoquait Arnaud. Mathieu, tu nous as sélectionné Secrets. Allez, on prend la route de Maison City et on va écouter White Bother qui sort un nouvel album. Cédric nous en a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle Come On Inside. I've been living with you for 9 days.
that you're sleeping, I can fulfill my needs. Whatever I take forever, I will keep. It's only me in here, sir.
Et c'était Why Bother, et c'est Cédric qui nous les présente.
Alors, Why Bother, puisqu'on me posait la question hors antenne, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, c'est
une expression qui peut se traduire par pourquoi s'en préoccuper ou bien pourquoi se gêner. Et je vous laisserai le soin de choisir entre les deux traductions dans vos commentaires sur le groupe. Alors, ce groupe n'est pas très vieux, il a été créé en 2021, mais il a déjà accumulé pas mal de choses puisqu'il s'agit ici du 5e album et quantité d'EP supplémentaires. Et le programme est copieux avec cet album de 15 titres, hein, le tout sur le label Philit Records, un label de Cincinnati dans l'Ohio, dont on a déjà chroniqué plusieurs albums excellents, pour ne citer que Crime of Passing, Sweeping Promises ou Delivery. Et donc ce groupe nous vient, comme tu l'as dit Pierre, de Mason City, hein, donc une petite banlieue de 30 000 habitants où il se passe à peu près rien du tout, et c'est ce qui explique sans doute cette productivité du groupe qui avait comme probablement pas grand autre chose à faire, quoi. La seule gloire de cette bourgade, c'est d'avoir vu l'avion de Buddy Holly s'écraser, alors même pas sur la bourgade mais à 10 km de là, c'est à peu près son seul fait important. Alors le groupe est classique dans sa composition, avec Terry au voix et au synthé, Speck à la guitare, Pamela à la basse et Paul à la batterie. On dirait presque les Beatles finalement. Et ce groupe nous avait plutôt habitués, on avait déjà chroniqué un album ici, à des albums je trouve d'excellente facture, dans des styles variant du post-punk au punk, en passant par le garage lo-fi, le synthé-punk ou avec une petite note de pop. Et ce disque est un tournant, ou peut-être juste une parenthèse, on verra. Puisque comme son nom l'indique, on est plutôt dans le registre de la ballade sur certains titres, comme celui qu'on vient d'écouter, mettre la ballade sombre portée par une voix lancinante. Avec des passages aussi sur l'album plutôt pop 60s, rythme boogie ou des titres plus énervés, plus punk, comme on l'écoutera à la fin de la présentation du groupe. Et je vous parle même pas de ce titre très curieux, Testify, donc enregistré auprès d'un prisonnier en prison à vie, enregistré sur un téléphone et donc avec un son tout pourri. Je trouve que c'est un album assez déroutant, tant il emprunte des chemins différents, mais je trouve que c'est un album d'excellente facture et un des groupes majeurs de la scène punk d'aujourd'hui. Seul regret, apparemment, ce groupe ne fait pas de concert.
Héloïse, Why Bother?
Alors, c'est un album que j'ai trouvé bluffant. Non pas par ses sonorités en elles-mêmes, sur lesquelles je reviendrai, mais quant à l'incroyable capacité de Why Bother de se réinventer, pour dépasser ce son garage graissé aux synthés caractéristiques de son 4e album, Year of Mutation, que nous avions chroniqué dans notre 20e émission. Et le descriptif du disque parle d'ailleurs pour lui-même, celui-ci se voulant un témoignage de ce que Why Bother ne fait jamais deux fois la même chose. En lieu et place des tombereaux de synthétiseurs caractéristique du précédent disque, le groupe a ainsi fait le choix d'une musique beaucoup plus lente, beaucoup moins crade, davantage centrée sur la voix et en un mot, comme le suggère le titre de l'album, des ballades qui s'étendent sur toute la première partie du disque et sa conclusion, Cédric l'a souligné. Des morceaux qui sont beaucoup plus doux, plus dansants, plus féminins aussi, comme sur le morceau Gina. Bien que chassé le naturel, il revient au galop, de sorte que deux, trois titres dénotent tout de même par leur côté un peu plus péchu que les autres. Est-ce que j'aime le résultat? À l'exception de quelques morceaux dont certains, notamment les deux derniers, sont de vrais bijoux, pas vraiment. Pour la même raison que j'ai toujours préféré les sabres laser aux poupées, la disto au délai, les pogos au tango, cela manque de coffre à mon goût.
Mathieu, même regard affligé.
Alors j'irai pas jusqu'à affliger, mais c'est vrai qu'on avait entendu étudié un album qui était bien péchu. Là c'est vrai que ce qu'on peut appeler le garage synth punk du groupe, il est pas toujours de très bon goût. Le morceau Run from the Sun, c'est une horreur. Tu l'as dit Cédric, avec le morceau Testify qui lui pousse les choses jusqu'au bout, mais on a parfois l'impression que l'album est enregistré au fond des chiottes. Et ça donne un album qui est un peu inégal. En revanche, ce qu'on sait, et même si Héloïse elle a pas été totalement convaincue, on sait que la possibilité existe toujours avec ce groupe de trouver des pépites à un moment ou à un autre sur l'album, et c'est encore le cas.
Ouais, moi j'avais mais vraiment tellement aimé l'album précédent là qui était paru en 2021, Year of Mutation. On avait parlé ici et moi je pense que je pourrais leur pardonner pendant longtemps de faire des albums moyens rien que pour cet album qui pour moi est vraiment un des trucs les plus super qu'on a découvert dans cette émission. Si je compte bien, ouais, c'est ça, ils ont réalisé cinq albums, donc ça a pas l'air d'être un investissement trop lourd pour eux de faire un album. Ils doivent pas mettre plus de 20 minutes à faire le mixage final. Pour cette nouvelle livraison, bah voilà, pour moi on retrouve les fondamentaux qui m'avaient ému en 2021. Un son assez unique, un son très garage, mal rasé. La voix de Terry, le chanteur, cette voix un peu de dandy décompo et la manière dont elle est travaillée, dont on a l'impression qu'elle tombe au fond du micro. Je trouve que ça donne une identité sonore incroyable. Et puis il y a toujours ce truc, tout se fait avec l'économie des moyens du DIY. Ça s'entend et à la fois c'est sa force, quoi. Je veux dire, sortir un morceau qui a été enregistré sur un téléphone portable et l'assumer, ça fait partie de leur démarche. Alors voilà, on voit que d'album en album, hein, je ne peux que conseiller d'écouter toute leur discographie et disponible sur les plateformes d'écoute, sur leur Bandcamp et tout. Mais d'album en album, on voit qu'ils tentent à chaque fois d'aller vers d'autres horizons, de pas totalement rester sur place. Et bon, cette fois-ci, c'est gentiment pop, je vous l'accorde un peu trop, mais je reste toujours passionné. Je pense que pour les 5 ou 6 prochains albums, je leur pardonne tout ce qu'ils feront. Voilà, et j'ai bien compris qu'ils bougeaient pas. Je pense que ça doit être super sympa ou super intéressant de les voir sur scène. C'est peut-être un des trucs qu'on regrettera. Arnaud.
Moi, j'avais tellement pas aimé l'album précédent, Pierre, je pense, la même phrase, mais à l'envers. Et du coup, je me suis souvenu qu'on l'avait déjà chroniqué, donc j'ai été écouté, c'est la 20e qu'on avait chroniqué, j'avais vraiment pas été sympa. Et bon, le dicton, il y a que les cons qui changent pas d'avis, bah, je suis vraiment un gros con parce que j'ai exactement le même avis. Alors, je vais être un peu de mauvaise foi, je vais quand même nuancer à la fin, mais, c'est vraiment enregistré au fond des chiottes. Je savais même pas qu'il y avait un morceau enregistré au portable, j'ai vu aucune différence. Mathieu a donné le morceau qu'il faut écouter à fond dans un casque pour comprendre ce que je dis, c'est Run From The Sun qui est atroce. Bon, je suis une mauvaise foi parce que il y a tellement de morceaux que, en effet, Mathieu, on peut trouver quelques qualités à l'album. Ils ont un peu appris à écrire des mélodies, ça c'est le cas. Les titres beaucoup plus calmes, moi, sont agréables. En fait, du coup, Héloïse, c'est l'inverse. Moi, le virage me plaît un peu mieux. N'empêche que le chanteur a toujours pas appris à chanter parce qu'il y a des morceaux, c'est une catastrophe. Tout ce que vous dites me laisse béat, notamment Pierre, là, ta chronique. Je sais pas. J'ai écouté vraiment de très nombreuses fois pour vous dire, j'ai écouté en voiture, j'ai écouté au casque, j'ai écouté sur mon ampli pour voir si vraiment j'avais des problèmes auditifs. Et ce bourdonnement permanent, ça se demandait s'ils veulent pas qu'on écoute cet album comme sur une vieille cassette qu'on avait laissée sur le pare-brise, enfin le pare-brise de la voiture et qui avait chauffé et que tu le remets dans la machine et tout le son est totalement distordu. Moi, j'y arrive pas. Je veux bien l'économie de moyens. Il y a des limites dans les économies. On voit ce que ça fait sur le service public. Donc là, moi, je stoppe. Peut-être 6 albums encore et je trouverai peut-être 2-3 morceau acceptable, mais tu disais Cédric, une parenthèse, moi si toute leur discographie pourrait être une parenthèse, ça m'aiderait.
Guillaume.
Eh oui, c'est ce que ne comprend pas Arnaud, hein, c'est que c'est cela d'avoir du style. C'est ça, comme ça sonne, ça s'entend comme une évidence les morceaux de White Buzzer. Hein. Les 2 premières secondes du premier morceau suffisent à reconnaître à qui on a affaire. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas White Buzzer, bah, ils possèdent un son bien à eux, immédiatement identifiable, et qui, au fil de leur prolifique production, a su évoluer tout en restant semblable. C'est une grosse qualité de leur part, et qui n'est pas du tout donnée à tout le monde. Car on peut s'y tromper, hein, la voix de Terry avec son phrase long et chill, comme disent les ricains, auquel s'ajoute le son biscordu de son synthé, la guitare saturante et pleine d'assurance de Paul, la basse rapide et précise de Pamela, constitue la recette imparable du trio de Mason City, dont, une fois encore, j'ai savouré l'écoute. L'ensemble est soigné et sans faiblesse, dans la continuité de ce qu'ils savent si bien faire. Donc, même si ce scénarating Unwanted Ballads sonne plus apaisé, moins foufou et saturé que les précédents, ici, les White Buzzers se posent et développent des compositions lente et d'atmosphère qui ravissent, même si sur leurs morceaux les plus faibles comme Good As You, le trio tient la route et parvient à fournir les effets suffisants pour contenter. Tout cela ne s'appelle pas autrement que le talent. Bravo.
Voilà, les choses ayant été posées comme ça, je vous propose d'écouter avec joie un dernier extrait de White Buzzer, Nullity.
Ben voilà. I want to follow.
Allez, on quitte White Buzzer et on va revenir dans Lyon, en France. On va écouter Perché avec son album Là-haut et un premier extrait choisi par Arnaud, Maturité. Et voilà, de retour sur l'antenne de Cause Commune avec l'émission Tatapoum. On parle de Perché, son album Là-haut, c'est Arnaud qui nous le présente.
Bah oui, merci Guillaume, j'ai eu la chance moi de tomber sur cet album et au moins tu t'es pas infligé les plusieurs écoutes pour essayer de le chroniquer. T'as dû l'écouter qu'une fois, je pense. Donc ouais, rock, punk, électro, ça sort sur Trauma Social en partenariat avec Consroy. Bon, je vais essayer de pas trop déconner et pas trop être méchant. J'ai quand même un peu bossé, donc je vais essayer d'être objectif. Donc c'est le projet de Pierre Berger, c'est le leader d'Edouard Nenet et Prince de Bretagne. On a déjà parlé, vous êtes beaucoup à connaître, moi je connaissais pas, donc pardonnez mon inculture. Et là il se lance dans un projet solo, alors accompagné de Efelo, le guitariste des Vents en Passe, ça s'entend pas qu'un peu sur l'album. Et donc derrière son ordinateur, tout seul, il nous a produit cet album de 10 titres. C'est la deuxième sortie sous ce pseudo. Il avait déjà sorti un EP là-bas en 2023. Très différent, ça sonnait beaucoup plus électronique. Texte en français, assez travaillé à mon sens, que je trouvais plutôt pas mal, sûrement pas être d'accord avec moi. Sur celui-ci, là, on a de l'électropunk, c'est ça qui a été choisi, c'est une belle réussite. Il alterne les textes en français et en anglais, comme sur Proud People, avec comme conseiller technique l'autre Pierre, donc le nôtre. On savait pas que tu bossais à l'écriture, Pierre, parce que la prononciation, vous avez vachement bien bossé. Là, c'est époustouflant, vous écouterez le titre, c'est à crever les oreilles. Donc, félicitations à ta prof d'anglais, tu nous as déjà parlé de Drancy, elle doit être fière de toi, Pierre. Sur les titres en français, donc c'est la majorité, on comprend les textes et c'est sûrement ça le problème, parce que c'est beaucoup moins décalé que j'ai quand même jeté une oreille sur Edouard Nenet, moins décalé que sur le projet précédent. Ici, ça dénonce un max, on a des rythmiques tellement usées que moi je me demande quand le morceau va se terminer. En trop obscène, le jeu de mots est absolument minable. Sourire, les textes, ça balance à mort sur les patrons de droite, j'ai trouvé ça horrible. Le tout sur des rythmiques saucisses merguez, moi ça me fout de kermesse, c'est insupportable. Je crois que Guillaume va être d'accord avec moi. C'est le seul moment de l'émission où on est d'accord. Franchement, j'ai vraiment souffert jusqu'au dernier morceau, donc c'est le dernier jour du pogo, une parodie du morceau de Terminé le dernier jour du disco. Et ça tombe totalement à plat. Alors, j'ai l'impression d'être un jeune de 12 ans qui écoute les blagues de son père de 50 et qui comprend rien. Et tu trouves ça complètement décalé. Ça doit être ça. Les paroles du dernier titre qui va venir s'appelle Grimace et c'est absolument, je l'ai réécouté juste avant de venir et c'est exactement ça ce que j'ai ressenti après la première écoute de l'album. Donc pour paraphraser, je ne vais pas être minable, je ne suis pas méchant, je ne veux pas faire du mal, mais il faut choisir son camp et je ne vais pas acheter. Voilà, à vous.
Bon, alors Perché, donc tu l'as dit, c'est Édouard Nonet. C'était aussi France Culture avant. Il avait un autre groupe. C'est la constante dans tout ce qu'il fait, c'est toujours cette série de jeux de mots, un peu calembour. Voilà, c'est. Alors, c'est un ami. Enfin, je dirais, ici autour de la table, on est plusieurs à le connaître, en particulier Marion Bibi et puis toi aussi, Mathieu, puisqu'ils ont fait une émission sur le rock Construit dont vous parlez régulièrement ensemble. Il y a participé des années durant autour du micro. Voilà, c'est un gars qui aime tellement le punk qu'il a décidé d'en faire lui-même. Moi, il y a un truc. Bon, c'est ce projet-là a toutes les limites que vous allez pointer. C'était Édouard Nonet, les Princes de Bretagne. J'ai jamais compris pourquoi ça n'avait pas eu plus de succès. C'était musicalement très abouti, avec des textes poilants, un peu ciselés. Ça faisait peut-être un peu moins calembour que là. Un peu comme si Sid Vicious et Bobby Lapointe avaient eu un projet d'album commun. Voilà. Puis ça, je crois que ça a jamais vraiment décollé. Ils ont jamais vraiment réussi à aller plus loin, alors que je trouvais que c'était vraiment pas mal. Voilà, Pierre, il continue à faire du rock avec les moyens à sa disposition. Hein. Après un exil improbable dans Lyon, il fallait bien trouver une solution. Moi, je pense que si un jour il se retrouvait échoué sur une île déserte, il ferait du punk avec des noix de coco. Cette fois-ci, il a fait un truc plus électro. Moi, je trouve que c'est vaillant, quoi. Je trouve que j'ai beaucoup de respect pour son entêtement à continuer à faire du rock. Voilà, donc on se tourne tous désormais vers Guillaume, vas-y, fais-toi plaisir.
Oh, on connaît tous, on le sait, mon appétence pour la scène rock française. Et après 3 ans d'émission de Tata Poum, où je me vois contraint de m'infliger l'écoute d'albums dont je n'aurais jamais pensé y prêter l'oreille, j'ai acquis la conviction que les bons groupes de rock français, c'est comme les macronistes de gauche, c'est censé exister, mais j'en ai jamais rencontré, et c'est ce que nous démontre avec brio les Lyonnais de Perché. Perché est exemplaire du niveau de notre scène rock nationale, dans ce qu'elle a de plus grotesque, incapable d'évoluer musicalement. Elle demeure juchée dans un style rock alternatif circa 1988, dont elle s'obstine à ne jamais en descendre, continuant à nous imposer une qualité musicale aussi rétrograde que ses textes sont politiquement caricaturaux. L'album débute très fort d'ailleurs, avec un morceau à tendance techno-hardcore qui nous ferait passer les vulves assassines pour du Carl Craig. Le second est tout aussi mauvais, avec sa boîte à rythme binaire qui tourne en boucle façon orgue, bon tant pis. Le troisième se veut plus rock. En effet, on y entend quelques enchaînements d'accords et un refrain, mais c'est pour mieux nous servir son incomparable solide guitare si typique de ce genre de groupe. Le quatrième singe tellement les vampasques qu'il nous faudrait croire horreur qu'ils existent toujours. Enfin, avec le cinquième, qui sera le dernier, j'ai pas été plus loin, on atteint le climax de l'album. Imaginez Pierre chanter en anglais, et bien Perché parvient à rendre ça pire. Donc bilan de l'écoute, la relève est là, le rock français peut voir l'avenir en grand, l'héritage des shérifs, des porte-manteaux et autres satellites est assuré, reste plus désormais qu'à conquérir le monde.
C'est délicateur.
Bon, moi j'ai bien aimé, comme tous les groupes de cette émission finalement. Je me réjouis d'ailleurs d'entendre la chronique de Guillaume plus tard pour savoir ce qu'il en pense. T'as déjà parlé, pardon. Excuse-moi, j'avais pas écouté. Non, mais moi j'ai bien aimé, pour tout dire, en fait, j'ai même presque plus aimé que les albums de ces projets précédents. Alors, finalement, je suis d'accord avec personne. Moi j'étais un peu moins, j'aimais un peu moins, je trouvais qu'il y avait plus de calembour dans les précédents et je suis un peu moins fan, quoi, finalement. Moi je trouvais que c'est minimal ici, mais je trouve qu'il a fait, finalement, qu'il prouve qu'on peut faire mieux avec moins, quoi. Et je trouve que l'album repose toujours sur cette voix reconnaissable que j'aime bien. Je sais que tout le monde partage pas cet avis. Je trouve que les textes sont assez bien ciselés, percutants. Je trouve qu'il y a des titres assez bien tendus, comme sur Grimace. Là, on est un peu en désaccord avec Arnaud, je pense. Ou encore sur le très berruyen coup d'État. Alors, il y a toujours un peu d'humour, certes, dans les titres. Je trouvais ça plutôt drôle, d'ailleurs, ces titres-là. Je trouve que s'en prendre à Juliette Armanet, il faut quand même oser s'il veut venir un jour à Paris dans le 11e arrondissement. Là, on s'en prend quand même à du très haut. Hein. Je pense que s'il veut un jour passer à la Gaîté Lyrique, c'est mort. Hein. Donc, un bel album. Alors, moi, ça ne me gêne pas, c'est côté politique. Alors, j'entends bien qu'Arnaud et Guillaume sont dans la nuance. Hein, donc, je vous invite tout de suite à crier les rockers avec Glucksmann, par exemple. Parce qu'on ne peut pas dénoncer le capitalisme comme ça. Il y a quand même des choses à prendre. Soyons pas fous non plus. Quoi. Donc, bref, un album que je trouve assez malin, rageur, le sourire en coin. Donc, c'est peut-être un peu l'émergence, finalement, d'un Sliver Mods à la française.
Adieu. Héloïse.
Eh bien, comme Pierre, comme Mathieu, comme Cédric, moi j'ai beaucoup aimé cet album, et spécialement le dernier jour du Pogo, qu'Arnaud et Guillaume ont vraisemblablement détesté. Avec La Houpe, Pierre Berger nous propose en effet du rock'n'roll, bricolé quasi seul derrière son ordinateur avec la guitare et les arrangements des fellows. En bref, du pur DIY artisanal qui tire certes franchement du côté du conceptuel, mais qui reste marqué très rock'n'roll, et c'est précisément ce qui m'a plu. En dépit de sonorités électroniques marquées, là-haut reste très instrumental, rythmé, voire dansant. Par ailleurs, côté paroles, j'ai apprécié son ton léger, pétri d'humour, qui cause Brexit, certes avec un accent approximatif, mais aussi réalité sociale ou encore sabotage. En bref, n'en déplaise à son titre, là-haut n'est pas exactement un album hors sol, plutôt un robuste dit titre d'électro-rock que je ne saurais vous recommander d'écouter.
Eh bien, écoutons, on écoute Grimace de Perché.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Vous
Voilà, c'était Tatapoum épisode 46 avec ce soir les critiques rock de la maturité. Mathieu, Arnaud, Cédric, Guillaume, Héloïse, Bibi et Marion. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Cause Commune. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter de dimanche soir. À ciao.